Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. C'est Cop Nord, comme chaque semaine, on va faire parler en direct des supporters de Lille et des supporters de Lens. En même temps, ou presque, laissez-moi présenter ses supporters ce soir avec nous en plateau. À ma droite, côté Lillois, Adrien Dez et Morgane Delis.
Bonjour,
messieurs.
Bonsoir.
Et si on regarde de l'autre côté de la table, supporter lensois du soir, c'est Antoine Galinier. Bonsoir. Bonjour. Antoine. Et à tes côtés, Guillaume Bataillé, journaliste local pour Europe 2. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué parce que ce soir, on va beaucoup parler de course, la course à l'Europe. D'abord pour le LOSC, victoire 3-1 contre Lorient, grâce notamment à un doublé de Zegrova. Et donc, qui remonte à la 5ème place, 2 points devant Rennes, des Bretons qui ont été battus 1-0 par Lens. Les Sang et Or peuvent compter depuis quelques matchs sur le réveil de Loïs Openda. Au-delà de l'Europe et au lendemain de la nouvelle défaite plutôt insipide du PSG, les Artésiens peuvent-ils se lancer dans la course au titre? Réponse dans quelques instants. Enfin, une fois n'est pas coutume, on va parler de Valenciennes. Une course contre la montre, cette fois lancée pour le club qui n'a plus que 2 points d'avance sur la zone rouge. À noter de vives tensions ce week-end entre direction et supporters, alors que le club pourrait être racheté. On verra ça à la fin de ce Cop Nord. Et vous aussi, vous pouvez participer, réagir au débat lancé ce soir grâce au hashtag Cop Nord sur Twitter. On attend vos messages. Et on commence donc avec la victoire de Lille hier face à Lorient. Résumé de la rencontre avec Walid Benani.
La nouvelle mascotte lilloise, le temps d'une après-midi, Eden Zegrova a sauvé un LOSC parti pour faire match nul face à Lorient. Cabella et Koné se répondant dans un match ouvert. Les Merlus réduits à 10 en fin de rencontre craquent après l'entrée du héros kosovar. En 2 minutes, Zegrova offre un précieux succès 3-1 au LOSC qui rêve toujours d'Europe avec sa 5ème place au classement.
Des Lillois qui avaient pourtant bien ce match en main, hein. 60% de possession du ballon, 20 tirs à 2, 7 cadrés pour les Dogs, un seul pour les Bretons. Vraiment un grand écart de classe. Mais pourtant, on a longtemps cru que Lille aurait pu se faire tenir en échec au stade Pierre-Mauroy, le Décathlon Arena, même pour être précis, hier. Les tops et flops, donc on commence évidemment par les tops. Je me tourne vers vous, Adrien, Morgane, pour vous. Qui a été le meilleur Lillois sur cette rencontre?
Bon, écoutez, top, je pense que tout le monde va dire Zegrova, mais moi j'ai envie de mettre en avant plusieurs joueurs comme Rémi Cabella qui nous fait un super match. Franchement, il était très impressionnant dans le jeu. Et j'ai envie de mettre en avant aussi Alexandro qui remplace bien, je trouve, Thiago Diallo avec la blessure.
Mais Zegrova, donc, ou s'il en fallait un?
Cabella, je vais dire.
Cabella.
S'il en fallait un, Zegrova, forcément, il rentre à un partout et on termine à 3-1 en marquant 2 buts dans les dernières minutes. Donc Zegrova à 100%.
L'entrée décisive de Zegrova, vous la soulignez aussi?
Bien sûr, mais moi je mettrais aussi Cabella, parce que Cabella, il fait encore un match énorme. Il est partout, il est remonte. Je crois qu'il gagne 9 duels, ce qui est beaucoup pour un joueur offensif. Et puis, il marque, ce qui permet de lancer la rencontre. Puis moi, je vois aussi un homme, c'est bizarre de dire ça, un homme heureux. Quand je le vois, je vois un homme complètement épanoui dans cette équipe. On reproche souvent aux joueurs de pas s'investir dans un club, dans une équipe. Et lui, on voit qu'il est totalement investi.
Carton plein donc pour Zegrova. Antoine, t'es d'accord?
Zegrova, ouais, s'il fallait changer, j'aurais mis une petite pièce sur Angel Gomez quand même. Je trouve qu'il a 2 passes décisives, il oriente le jeu, il a tenu la baraque au milieu. Franchement, j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt complet, donc je serais parti sur Angel Gomez pour changer un peu.
Donc voilà, c'est quand même un plutôt beau match pour l'effectif lillois. On voit beaucoup de joueurs plébiscités. Et Don Zegrova, on peut d'ailleurs souligner que c'est le doublé le plus rapide pour un Lillois depuis 2012. Et Don Zegrova qui a donc marqué en 2 minutes et 12 secondes. Donc effectivement, 2 buts qui ont fait beaucoup de bien sur cette fin de rencontre lilloise. On peut d'ailleurs l'écouter, Don Zegrova, qui ont parlé d'un homme heureux il y a quelques instants avec toi, Guillaume. Effectivement, il y soulignait la qualité de cet apport en fin de rencontre.
Quand le coach te donne l'opportunité de rentrer pour 5 minutes, 10 minutes, tu dois tout donner pour l'équipe. Et c'est mon style de match car je peux changer le cours de celui-ci. Aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. Je suis heureux d'avoir donné la victoire à l'équipe. Ne pas commencer titulaire, c'est une décision du coach. Donc tu dois quand même être prêt à tout moment quand le coach te donne ta chance. Je suis comme ça, si je ne débute pas, je reste prêt.
Pour parler d'un autre fait de jeu d'ailleurs, il y a la blessure d'Adam Ounas à la 30e minute de jeu. C'est d'abord Mohamed Bayo qui remplace l'ailier droit avant l'entrée de Zegrova à la fin de la rencontre. Alors, on n'a pas encore vraiment la nature de la blessure d'Adam Ounas. On attendait une communication du club dans la journée, ça devrait arriver plutôt demain maintenant. Mais à quoi doit s'attendre Paulo Fonseca? Est-ce que pour vous, avec ce match-là. Zegrova a gagné sa place de titulaire pour la prochaine rencontre.
Bah, moi, je trouve que ça reste quand même un super sub, on va dire, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact quand il rentre. Moi, je pense qu'avec le retour de Diakité, on serait plus sur un retour de Timothy Weah en ailier droit.
C'est le choix du cœur, là ?
C'est pas le choix du cœur, mais je trouve que Timothy Weah, c'est vrai qu'en ce moment, il est vraiment très bon et on le met un peu sur tous les postes et à chaque fois, il répond présent. Donc, c'est vrai que je mets en avant Timothy Weah, mais... pourquoi pas Zegrova par la suite, on verra bien.
Ouais, moi, c'est plus Zegrova. Je trouve que justement, Zegrova avait pris sa place de titulaire quand Ounas était absent il y a quelques semaines de ça. Il avait fait plutôt de bons matchs. Zegrova a fait de bons matchs encore avec le Kosovo pendant la trêve. Et il fait vraiment de bonnes différences. Et justement, Weah, moi, je le trouve meilleur quand il est un peu reculé. Et il peut rentrer justement avec sa vitesse, sa perforation, il peut rentrer avec sa qualité. Et
ça veut dire que pour toi, Diakité reste un peu sur le banc sur les prochains matchs. Si tu étais entraîneur, tu aurais fait ce choix-là.
C'est le choix compliqué. En tout cas, aujourd'hui, je laisserai Weah parce que ça fonctionne bien. Même si Diakité, ça reste un bon joueur. Le temps que Diakité revienne en forme, je laisserai Weah sur le côté. Oui.
Donc un peu de casse-tête à venir pour Paulo Fonseca. On n'a pas fini notre histoire de flop. On a donc vu un top mouvementé. Qui pour vous a fait le match lillois le plus emprunté, le moins performant ?
Moi, ça serait Bamba. À l'image de son occasion ratée en fin de match à un partout, je le trouve autant défensivement, il fait vraiment les efforts, autant offensivement, je trouve qu'il apporte trop peu à notre équipe.
Est-ce que Bamba
est souligné ? Je suis d'accord parce que bah déjà il manque l'immanquable. Et puis sur le but l'orienté, c'est lui qui perd le ballon. Donc ça fait beaucoup pour un joueur qui a pas apporté assez offensivement, parce que c'est un joueur offensif, donc c'est ce qu'on lui demande.
C'est ça.
Et bien sûr, moi je le mettrai en flop. Ouais.
Et d'ailleurs, Bamba, peut-être pour toi aussi, Morgan.
Bamba aussi, ouais.
Voilà, donc là, malheureusement, Bamba qui fait l'unité. Effectivement, c'est cette occasion manquée face au but. On parlait beaucoup de réussite, de manque de réussite même lilloise. C'est un peu bah, justement cette image qu'on retient. Pendant longtemps, on voit donc des Lorientais qui marquent sur leur seul tir cadré. Est-ce que vous, qui étiez dans les tribunes hier, vous disiez « ça y est, on va voir la même chose que ces derniers temps, Lille qui va perdre des points bêtement ?»
Ouais, c'est compliqué. Bah, c'est pas la première fois que ça nous arrive cette saison. On sait, on a perdu énormément de points par rapport à ça. Je pense qu'on aurait pu tuer le match bien avant, rien qu'à la première mi-temps. Lorient qui rentre avec zéro tir. Nous, on a déjà eu énormément d'occasions. Donc, ouais, c'est vraiment compliqué de pas tuer le match avant. Et après, bah, Bamba, malheureusement, il fait partie de ceux qui font que on n'est pas tué le match avant, quoi.
Alors, on parle aussi de réussite, puisque Lille est sur une série de 12 matchs sans défaite à domicile en Ligue 1 d'affilée. La dernière défaite, c'était fin août contre Nice. Effectivement. C'est la dernière défaite de Lille à la maison. Cette solidité défensive, quand on voit en plus bah, les bricolages de Paulo Fonseca derrière, on a eu la courte blessure de José Fonte, on a celle grave de Thiago Diallo, on a eu donc aussi côté droit la blessure de Diakité qui revient tranquillement. Il me semble aussi qu'il y en a d'autres blessés en défense. Bref, des bricolages de Paulo Fonseca plutôt... s'en sort plutôt bien à domicile pour les Lillois.
Ouais, c'est vrai qu'on s'en sort plutôt bien, mais je trouve qu'il y a une confiance qui se dégage quand on joue à domicile comparé quand on joue à l'extérieur. Est-ce que c'est parce qu'il y a les supporters ? Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent le terrain ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on sent une confiance et presque une facilité à au moins ne pas perdre les matchs et voir à les gagner. Alors on a encore des gros matchs, il y a encore Marseille à jouer à domicile. Et presque le plus dur, ce sera aussi de jouer les entre guillemets petites équipes, parce que là, c'est des équipes qui vont venir bloc bas, et on sait qu'on a du mal face à ces équipes-là.
Donc, ça commence avec Angers samedi, donc il va falloir voir comment Paulo Fonseca gère ça. Parlons aussi salaire, on va en parler d'abord avec Lille, puis tout à l'heure avec Lens évidemment. L'équipe qui a dévoilé les salaires des joueurs de Ligue 1, alors si on regarde donc côté lillois, le mieux payé c'est André Gomes, avec 190 000 euros mensuels payés par le club, sachant que c'est qu'une partie de son revenu, l'autre partie étant prise en compte par son club d'Everton. Ça veut dire là que clairement, si on regarde ça, André Gomes, il est inaccessible pour vous, c'est un rêve inaccessible pour l'an prochain ?
Non, pas forcément, parce que vu le salaire déjà de l'entraîneur, le LOSC, ils veulent mettre des moyens.
220 000 euros pour Paulo Fonseca.
C'est le seul entraîneur qui est mieux payé que ses joueurs en Ligue 1.
Oui.
Donc forcément...
Ça veut dire quelque chose, ça, d'ailleurs, pour vous, Paulo Fonseca, qui est mieux payé
pour moi, ouais, objectif ? Parce que c'est l'investissement d'un projet. Ouais. Ils ont investi, ils veulent mettre de l'argent. Et en fait, c'est pas Fonseca qui coûte de l'argent. Parce que lui, on a vu que c'est un très bon entraîneur. C'est Mohamed Bayo qui coûte de l'argent. Parce que Mohamed Bayo, je crois que c'est le cinquième plus gros. Il a coûté 14 millions. Et puis, il joue jamais. C'est ça le problème, c'est ça ce qui coûte cher à un club.
Dans l'ordre, oui, effectivement, dans le top 5, c'est d'abord, donc, on l'a dit, André Gomes, puis Benjamin André et Jonathan David, la deux tauliers du vestiaire. Puis effectivement, derrière, c'est Adam Ounas et Mohamed Bayo. Là, pour vous, quoi, le recrutement, il n'est pas forcément très bon. Bon, on voit Adam Ounas qui est encore blessé, Mohamed Bayo qui s'impose pas franchement à la pointe de l'attaque. Est-ce que cette politique-là pour les recrues n'a pas été bonne?
Si, parce qu'à côté de ça, on n'en parle pas, mais il y a les Diakité, il y a les Cabela, il y a les Diallo. Aussi Diallo. Ouais, il y a des, quand même des recrutements intéressants et qui n'ont pas coûté très cher au club. Donc, bien sûr qu'il y a les Jonas Martin, les Bayo, on parle, parce que forcément, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est aussi un pari sur l'avenir. Avec Bayo, on espère que l'année prochaine, il va s'affirmer et va confirmer ce qu'il a fait déjà précédemment en Ligue 1 avec Clermont.
Et une dernière question sur les salaires. L'année dernière, le joueur le mieux payé à Lille, c'était Renato Sanchez, avec à peu près 330-350 000 euros mensuels. Là, le fait qu'il y ait un sacré écart, un retour en arrière, hein, quelque part, sur cette politique de salaire, pour vous, ça veut dire quoi? Est-ce que Lille va essayer, du moins, de gérer plus intelligemment ses dépenses?
Bah oui et non, parce que après, comme l'a dit, je sais plus du tout ton prénom,
Adrien.
Mais c'est le fait aussi d'aller chercher des joueurs qui n'ont pas forcément énormément d'expérience et qui commencent à exploser un peu au LOSC, comme Diakité qui nous fait une bonne saison. Donc ouais, c'est très intelligent ce qu'on est en train de faire. Et puis on peut aussi citer Burak Yılmaz l'année dernière aussi, qui faisait partie des gros salaires.
C'était donc, le deuxième ça fait, plus gros salaire avec 220 000 euros.
C'est sûr. Ça fait deux gros salaires en moins et puis voilà, donc non, franchement, ça, c'est vraiment top, quoi.
Ouais, et puis on était aussi en difficulté financière aussi, ça on le savait, et c'était le rôle de l'État aussi d'assainir un peu les finances du club. C'est ce qu'il est en train de faire aussi. Maintenant, c'est reconstruire. Et l'Europe, on l'espère, à la fin de saison, ça passe par là.
Pour l'instant, l'Europe, ça commence donc par une cinquième place. Lille qui est revenue cinquième après sa victoire. Et il faudra maintenant s'imposer contre Angers samedi. On parle de Lens dans quelques instants, une très courte page de pub. Et on n'oublie pas, on parlera aussi de la situation à Valenciennes. A tout de suite. On est de retour dans Cop Nord et on va maintenant parler du dauphin de la Ligue 1, le Racing Club de Lens, qui s'est imposé 1-0 face à Rennes samedi. Résumé de la rencontre avec Arthur Jean.
Un succès par la plus petite des marges, mais ô combien important pour le RC Lens. 1-0 sur la pelouse de Rennes, grâce à un tout petit but de la tête signé Loïs Openda. Le Belge inscrit son 15e but de la saison. Les Lensois peuvent remercier leur portier Brice Samba, auteur de 3 parades décisives. Avec la défaite du PSG, Lens revient à 6 points du leader.
Et un match plutôt disputé, hein, donc pour les Lensois, avec seulement 44% de possession pour les 100 et or. Ils ont moins eu le ballon, mais ont plus tenté leur chance que leurs adversaires du soir. 10 frappes cadrées, dont 10 frappes, donc 4 cadrées pour les 100 et or, contre une dizaine de frappes et 3 cadrées côté Rennais. Donc vraiment un peu équilibré, un peu dans toutes les statistiques. Top et flop maintenant. Antoine, forcément, je me tourne vers toi. Tu as été plutôt discret sur le premier quart d'heure, donc il va falloir que tu nous fasses un peu remonter le niveau. Ton top pour toi sur ce match Lensois?
Je vais rester sur Openda.
Évidemment.
Ouais. Il marque encore. Il est impressionnant sur son vis-à-vis tout le match. Il pèse sur la défense. Il fait reculer la ligne. Il fait presque une passe décisive pour un deuxième but que Seko Fofana enlève à Fulgini. Donc, il a été impressionnant. On l'a retrouvé et c'est bien.
Openda, forcément, Openda du aussi, match, hein, là aussi.
Danso pour moi.
Danso,
ouais.
Là tu soulignes plus la qualité défensive de Lensois Rennes.
C'est la meilleure défense du championnat et lui il apporte vraiment cette sérénité à cette défense. Il ne fait pas beaucoup d'erreurs, il est solide. Enfin, c'est le rock Lensois derrière.
Je voulais mettre Medina moi au début. Medina qui devient un des meilleurs défenseurs du Ligue 1. Il est énorme, il a des occasions, que ce soit donc offensivement, défensivement. C'est un très bon joueur de foot.
C'est un très bon joueur. Ouais.
Et qui revient de blessure en plus. Medina. Ouais. On parlait de la meilleure défense de Ligue 1, effectivement. Un 12e clean sheet de la saison pour Lens avec 21 buts encaissés. Lens qui est donc toujours meilleure défense de Ligue 1. On peut donc parler aussi de Loïs Openda. On peut dire qu'il a réglé la mire. 15e but pour lui cette saison. Il est impliqué sur 7 des 8 derniers buts lensois. A noter que c'est aussi la 8e passe décisive de Sotoka qui est maintenant 4e meilleur passeur de Ligue 1. Donc défensivement, offensivement, Lens, on peut dire, continue d'impressionner.
Ça roule et puis c'est rassurant parce qu'on avait joué clairement Angers, on se dit c'est des équipes un peu plus faibles, donc est-ce qu'on n'est pas meilleur parce qu'ils sont faibles, et là on va quand même à sur Rennes, et Rennes qui est quand même qui tournait pas mal, et on arrive à développer notre jeu, à être propre en défense, quand on voyait les joueurs ressortir le ballon proprement et sereinement, que ce soit Grady, Danso, Medina, c'était vraiment très plaisant à voir. Donc rassurant avec les échéances qui arrivent, des gros matchs.
Et tu retiens plus la deuxième place à l'heure actuelle ou le fait d'avoir récupéré 3 points contre Rennes?
La deuxième place actuelle, je dirais.
Eh ben, t'es pas forcément d'accord avec Francaise, écoutez.
Il fallait marquer, à chaque match de Ligue 1, il faut marquer les esprits, mais quand on se bat avec les plus gros, et qu'on n'est pas forcément attendu à ce niveau-là et à ce moment-là, il faut toujours marquer les esprits. Voilà. Et c'est un lieu important, parce que c'est une des grosses équipes de championnat, qui jouait évidemment un certain nombre de choses ce soir. On nous regarde avec fierté aujourd'hui, surtout d'avoir 60 points, c'est surtout ça, la deuxième place, franchement, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose, vraiment, honnêtement. Mais 60 points à la 29e journée, pour le Racing Club de Lens, ça, c'est quelque chose de fort.
Tu veux jouer l'Europe?
Un mot aussi, donc, on a parlé de Francaise, le retour de Medina qui lui permet de retrouver son système fétiche avec ses 5 défenseurs. Là, on a vu qu'ils étaient dans un système qui connaissait déjà les défenseurs et même les Lensois plus particulièrement.
Bien sûr. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'est... moi, quand je vois à Lens, je vois une équipe sereine. Peu importe ce qui se passe, l'équipe, elle est sereine. Et puis, une nouvelle fois, face à une équipe de Rennes qui est quand même une des meilleures équipes du championnat, Lens était au-dessus, comme Lille contre Lorient, qui est aussi une très bonne équipe. C'est... tu manges ton adversaire, quoi.
Et s'il faut parler de Paris, qui n'est plus qu'à 6 points devant, alors Lens a 10 points d'avance sur le premier club non européen, en l'occurrence donc Rennes, l'adversaire du soir. Est-ce que maintenant, à 6 points du PSG, il faut dire que les Lensois jouent le titre?
Le dire non, on peut...
Est-ce que tu le penses alors?
Non plus. C'est-à-dire qu'on peut espérer faire le maximum pour avoir le titre. 10 points, ça me paraît beaucoup. Et avec le planning qu'on a, Marseille, Monaco, Paris.
Alors c'est à quel moment que les Lensois peuvent se dire, ok, là on joue le titre. Est-ce que on parlait de Lille il y a maintenant 2 saisons. C'est quoi là, à 5 journées de la fin où on se dit vraiment ça sent bon?
Oui, souvent à 5 journées de la fin, mais il y a un match dans 15 jours contre le Paris Saint-Germain. En fonction de ce match-là, on sait que le Paris Saint-Germain, c'est difficile en ce moment. À tout moment, dans 15 jours, Paris, le dimanche soir à 23h, ils sont à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Donc ça pourra aller très vite, mais je pense que Lens peut viser plus haut en tout cas.
Et on va faire donc comme pour Lille, on va regarder maintenant la fiche de B des joueurs lensois. Si donc côté 100 et or, le mieux payé, c'est Seko Fana avec 190 000 euros mensuels. Puis derrière viennent Adam Buxa, Brice Samba, Thomasson et Fulgini. Les recrues donc plutôt attirées par le salaire côté lensois. On a réussi à passer un cap en tout cas, parce que l'année dernière, il y avait un seul joueur au-dessus de 100 000 euros. Là, on croit que Lens a vraiment passé un cap en termes de dépenses.
Bien sûr, c'est encore un investissement, c'est pareil. Quand il prolonge Fofana, forcément, il l'augmente. Il a un très gros salaire. Pour ça, tu ne m'as pas demandé mon flop. Moi, j'aurais pu mettre Fofana dans le match contre...
Je ne vais même pas demander les flops. Non, voilà. Ouais, je vais aller rapidement. Fofana qui enlève un but pour toi.
Ouais, carrément.
Fofana. Unité pour Fofana.
Parce que c'est le meilleur salaire, c'est le meilleur joueur. Donc forcément, il faut être exigeant avec ce genre de joueur.
Bien sûr.
Donc moi, c'est pour ça que je le mets en flop. Parce qu'avec ce type de joueur... qui a énormément de qualité, forcément, quand il fait un match moyen, comme c'était le cas, on peut émettre des critiques.
Et s'il fallait donc regarder maintenant le classement, on l'a dit, Lens revient deuxième dauphin, donc derrière Paris, à 6 points du leader, toujours 8 points devant le LOSC, et qui est donc le nouveau 5e du championnat, 52 points, soit 2 points de plus que Rennes. Le programme donc ce week-end, Lens recevra Strasbourg vendredi à 21h, et Lille sera à Angers à 17h samedi. Et pour une fois, on va donc parler Ligue 2, un match spectaculaire, samedi à Valenciennes, résumé de la rencontre avec Hamza Rahmani.
Un duel de buteurs pour ce spectaculaire Valenciennes-Paris FC. Adrien Gerbic lance le duel de milieu de tableau dès la 5e minute. Mais le PFC revient peu après la demi-heure de jeu grâce à 2 buts signés Morgan Gilavogui. Mais dans le temps additionnel de la première période, les nordistes reviennent grâce à Adrien Gerbic, encore lui, son 7e but en Ligue 2 en 2 mois, 2 partout à la mi-temps. Gilavogui, encore lui, redonne l'avantage aux Parisiens, triplé pour l'international guinéen. Mais Valenciennes égalise encore par Kaba cette fois. Suivront 10 dernières minutes complètement folles. 4-3 pour Paris, 4-4 à la 86e minute. Avant ce but de la victoire signé Khalid Boutaïb à la 90e, le PFC s'impose 5-4 à Valenciennes dans ce qui sera le match de l'année en Ligue 2.
Beaucoup de choses, hein. Il s'est passé beaucoup de choses hier au stade du Hainaut. On va parler aussi de la situation dans les tribunes, situation un peu tendue entre supporters et direction, puisqu'avant le match, 250 supporters ont demandé la démission d'Edis Diek, le président valenciennois, avec cette banderole, hein, pas d'union sacrée sans changement de direction. Au classement, les Valenciennois qui flirtent, hein, avec la zone rouge, 2 points d'avance seulement sur Laval, le premier relégable, puisque cette année, il y a 4 descentes de la Ligue 2 au National. Valenciennes, le journal d'équipe, qui expliquait aujourd'hui qu'il y a des contacts entre le président et un milliardaire africain, le directeur du projet sportif d'un grand groupe industriel d'Afrique subsaharienne, qui était présent samedi au stade du Hainaut dans le domaine de la cimenterie. En deux mots, ce genre de projet, est-ce que si vous étiez supporter de Valenciennes, ça vous inquiéterait ou vous seriez confiant?
Bah, ça fait un peu peur. Il faudrait pas que ça refasse un Mamadov bis, quoi. C'est surtout peur. Ça qui fait peur.
Inquiet, Guillaume.
Moi, je serais supporter valenciennois, je m'inquiéterais plus pour le maintien.
Ouais, très inquiet.
D'abord pour le maintien.
Inquiétant, justement, par rapport à on est en fin de saison, donc c'est inquiet à ce moment-là de la saison, quoi.
Et donc, on devrait avoir plus d'informations, un rachat qui devrait toujours, d'après l'équipe, se faire en fin de saison s'il y a maintien. Petite virgule, et on parle tout de suite du week-end de sport qu'on vient de vivre. Et un week-end de sport qui vous est résumé par Nicolas Flon.
Tadej Pogacar triomphe sur le 107e Tour des Flandres. Dans une course marquée par une impressionnante chute collective, le coureur slovène a lâché les autres favoris dans les 30 derniers kilomètres, dont le tenant du titre Mathieu Van Der Poel, distancé au dernier passage du Vieux Coirmont. Le coureur de 24 ans s'impose en solitaire et remporte son troisième monument. Il est aussi le troisième homme à réaliser le doublé Tour de France, Tour des Flandres. Nadir Hifi, intraitable, le Portel poursuit sa remontée au classement. Porté par l'arrière franco-algérien, auteur de 39 points, 8 rebonds et 6 passes décisives, le club nordiste a battu Paris et décroche une deuxième victoire consécutive. Le SSM s'impose 84-71 et compte désormais 2 victoires de plus que Paula Cortez, première équipe relégable. L'autre club du Nord-Pas-de-Calais a lui aussi gagné ce week-end. En déplacement à Fos-sur-Mer, Gravelines-Dunkerque a d'abord été dominé par les Bayers, mais le BCM a fini par renverser le match. Kenny Boynton termine meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points. Gravelines-Dunkerque s'impose 69-63 et se relance dans la course au play-off. Enfin en tennis, le Finlandais Otto Virtanen remporte le tournoi Challenger de Lille. Devant le public du complexe, Marcel Bernard, le joueur de 21 ans, a battu en finale l'Australien Max Purcell, tête de série numéro 1. Virtanen l'emporte en 3-7, 6-7, 6-4, 6-2 et succède à Quentin Alice, vainqueur l'année dernière.
Et c'est déjà la fin de ce Copter. Merci Adrien, merci Morgane, merci Guillaume,
merci
Antoine. On se retrouve très rapidement, évidemment. Prochain Copter, ce sera lundi prochain. N'oublie pas de remercier Théodore Anjouan à la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction de RMC Sport. Et on se retrouve donc lundi dès 19h en direct sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Avant ça, les émissions retrouvées sur nos sites internet, mais aussi sur Spotify. Très bonne semaine à tous. On rappelle le match de Lille contre Angers ce week-end et Lens face à Strasbourg vendredi. Et on débriefera tout ça lundi. Bonne semaine, salut.